Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Benoît Dutrisac.
Demandez-nous qui gère le système.
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions.
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Benoît, bonjour à vous deux.
Wow.
Il fait fret.
Il y a un peu de réverbération dans nos voix ce matin, Benoît.
Oui, c'est comme si c'était hanté.
Il fait tellement froid que notre voix résonne.
Ben oui.
Rémi va arranger ça à l'instant. Est-ce que tu m'entends?
Oui, là, tout va bien.
Ah, bon, ben Rémi est là pour régler ses problèmes.
Le
merci
doigt magique.
Alors, Benoît, on va commencer en parlant de baseball à Montréal. Terminer le baseball. Monsieur Blanc n'est pas content. Il dit que c'est une claque au visage, cette décision.
Mais écoute, c'est, Mario en parlait aussi, là, c'était un de ses sujets. Moi, c'est plus que le baseball. Là. C'est parce qu'on se fait dire par Rob Manfred, le commissaire de la Ligue majeure de baseball, non à Montréal, pas de baseball, pas de garde partagée avec les Tampa Rays en Floride. Mais là, faut pas oublier que Gary Bettman a dit non à Québec aussi.
C'est vrai.
Fait que là, il n'y aura pas de Nordique, il n'y aura pas d'Expo, on vivra pas dans le passé, on va pas...
Mais les Canadiens sont là, Benoît. Marcher.
Oh mon Dieu. J'écoutais Jean-François.
Attends-le.
Mais Jean-François, tantôt, avait un bon commentaire sur, sur l'époque où on avait du baseball, on avait du hockey, on avait, tu sais, les Alouettes aussi, là, il y avait une effervescence, là, au Québec. On était capable d'accomplir de grandes affaires, des barrages électriques, tu sais, on était en pleine expansion. Là, tout à coup, en 2022, alors que toute la technologie est là, tout pourrait être plus simple, il y a rien qui se passe.
Ben, il y a du tennis, Félix Auger-Aliassime, là, Annie Fernandez. Oui.
On pourrait avoir
des compétitions de ski de fond, on pourrait faire du vélo, de montagne. Sports que les trois gros sports populaires.
Non, c'est pas juste du sport, c'est une industrie, c'est du fric, c'est des jobs, c'est rayonnement à travers le monde. Ben non.
Ben oui.
Quand tu regardes, je vais-tu me mettre sur le bord d'une piste, moi, puis les mains dans le dos, pour regarder des skis de fond passer devant moi?
Il n'y a
aucun plaisir là. Fais-le, ça me fait plaisir que tu fasses l'exercice. Mais
il y a
moi,
plein de monde partout dans le monde qui font ça. Là.
À regarder du monde faire du ski de fond?
Ben oui.
Get a life.
Ton allié Mario est là. Mario, je t'écoute sur le baseball.
Non, mais je veux dire, tu nous amuses ce matin. Je pense pas que c'est une industrie. Ah, peut-être qu'en Norvège, dans un pays scandinave, il y a une culture du ski de fond.
En Europe,
il y a une carabine dans le dos, là.
Oui, mais je pense pas qu'il y a rien de comparable avec ce baseball. Moi, d'abord, je trouve ça bien triste, un. Deux, bon, je pense que beaucoup de gens vont se réjouir parce que pour beaucoup de gens, ce dossier-là se résumait à dire... avec la démagogie la plus extrême que je me souviendrai toujours de ce qu'auront dit les gens de Québec solidaire, là. On va prendre l'argent du réseau de la santé pis on va le donner à des millionnaires du baseball. Ben, tu sais, présenté de même, c'est sûr que ça a l'air d'une absurdité. Mais, tu sais, c'est une industrie. Je comprenais, j'ai jamais compris, mais pourquoi, on aurait été prêt, mettons, à ce qu'Investissement Québec investisse dans une entreprise d'informatique, d'aviation, mais pas de sport professionnel, là. C'est absolument absurde. Là. Si un est aussi rentable que l'autre, il y a aucune raison de dire, ça s'appelle baseball. J'aurais investi le même montant dans une entreprise informatique, mais si ça s'appelle baseball, je veux même pas qu'on la considère, je veux même pas qu'on la regarde, je veux même pas qu'on regarde des chiffres, je veux même pas qu'on regarde les états financiers. Alors ça, c'était absurde, parce que c'est une visibilité extraordinaire pour Montréal. Tu te remets dans les ligues majeures, sans mauvais jeu de mots, des grandes villes en Amérique du Nord. Bon, mais ceci dit, Steven Bronfman doit être déçu et frustré, là, parce que se faire dire non dans la vie, c'est une chose. Je pense que si on avait la première étape, je lui avais dit, garde, là, c'est une équipe,
oublie
regarde,
ça, là, ouais.
la ligue veut pas ça. Bon, c'est un non-projet, là, c'est un projet non envisageable, on perd pas de temps là-dessus. Mais de travailler autant, y mettre son cœur, puis tu sais, on est souvent porté à dire, ah, les milliardaires, c'est facile, ils ont l'argent, non, c'est, oui, ils ont l'argent, ils peuvent accomplir des choses que nous, on peut pas, mais ils sont pas obligés, là, tu sais, ils peuvent acheter une grosse villa, aux îles Caïmans, puis regarder l'eau, là, t'sais, tu décides d'investir pour ta ville, d'investir, c'est ton cœur est là-dedans, lui, son cœur était là-dedans, il voulait faire de quoi pour Montréal, de quoi tu serais fier, puis tout ça, après des années à travailler, besogner, aller voir tout le monde, monter un projet, se faire dire, finalement, c'est sur quoi tu travailles, là? C'est quoi qu'on n'est même pas prêt à envisager?
Non, mais c'est la Ligue majeure, là, qui a refusé, là. C'est pas Montréal,
oui,
là.
C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis.
Mais Québec est prêt à mettre.
Le baseball majeur, épouvantablement.
Benoît.
Mais là, on est prêt à mettre 200 millions encore dans les avions, là, qui lèvent pas. Qui décolle pas.
Les C-Series A220.
Mais moi, j'étais pas, j'étais contre le fait qu'il y ait de l'argent public dans cette affaire-là. Que Bronfman investisse, qu'on l'aide d'une façon ou d'une autre, qu'on lui facilite la vie, moi, je suis d'accord avec ça, là. Mais de faire des chèques à Bronfman, à Boyko, à Mitch Garner, là, c'est non. Mais c'est un projet qui est dommage, qui vient de tomber, comme celui du retour des Nordiques. Là, il y a une question à se poser, là. C'est la capacité de nos politiciens puis de nos hommes d'affaires de convaincre ceux qui sont en poste de décision. On n'a pas réussi à convaincre Gary Bettman pour le hockey. On n'a pas réussi à convaincre Rob Manfred pour le baseball. Il faudrait rappeler Jean Drapeau, je sais pas trop, tu sais.
Je t'arrête de ça. On avait convaincu le commissaire du baseball, Manfred, là. C'est vraiment, il semble que c'est les propriétaires. Roger Brulotte me disait hier, même quelques-uns des vieux propriétaires très conservateurs qui se sont mis là à roter du sur cette idée d'une équipe à garde partagée. Puis là, ben, au début, il avait laissé aller, mais ça fatiguait. Puis là, il disait, d'autres vont le faire. Et non, parce que le commissaire du baseball, lui, était plutôt même enthousiaste, puis avait donné son feu vert. Mais pour le sport professionnel, on se comprend que le Canada n'a pas la cote plus qu'il faut, en partant. C'est des ligues qui sont dominées aux États-Unis. Puis à mon avis, le Québec n'a pas la cote trop tôt dans le Canada non plus.
C'est un petit marché fait aussi.
Petit marché.
Ben non, c'est comparable.
Dans le baseball majeur, il y a des marchés plus petits que Montréal, aux États-Unis, là, plusieurs.
Alors, il y a quelque chose qui marche pas, là, puis effectivement, le Québec est pas choyé. Le Canada nous déteste. Ça doit être à cause de la loi 21, d'ailleurs.
On en avait des équipes en passant, hein. On les a laissés aller, là.
Parce
qu'on mettre de fonds publics là-dedans, puis tout ça. On avait les Nordiques, puis on avait les Expos, on les a laissés aller les deux.
Bon, mais peut-être qu'on pourrait mettre de l'argent dans les échangeurs d'air. Avec Klaus, l'école polaire.
En passant, Jean-François Roberge, là, pis c'est son équipe de communication, là, moi, j'en ai ras le pompon. Là, on nous a offert, là, on court après. Moi, je veux lui parler, moi, comme tout le monde. Là, hier, on rappelle, ben, on dit, ah oui, il va avoir 5 minutes. C'est à peu près ce qu'il t'a fait, le coup qu'il t'a fait. Là, j'ai dit non. Moi, j'en veux pas d'entrevue de 5 minutes. Si tu veux une entrevue de 5 minutes, va te parler dans le miroir, va parler à tes amis, mais si tu veux une vraie entrevue, moi, je dois avoir du temps pour te relancer, pour faire des sous-questions, puis pour aborder tous les sujets qu'on doit aborder. Je comprends qu'on passera pas une heure ensemble, mais 10 minutes au moins, 10 minutes au moins. Mais là, t'arrives avec 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tous les sujets qui sont sur la table, là, t'en prends un, tu prends pas l'autre. Puis lui, il prend le temps de répondre à une question, puis l'entrevue est finie. Il dit, ben non, ça a pas de sens. Là, Jean-François Roberge, là, je sais qu'il veut contrôler le message, il veut contrôler la réalité, il veut contrôler Walt Disney, il veut tout contrôler, mais il contrôle rien, puis c'est le bordel dans les écoles, les profs, on le sait, là, l'algorithme de gestion des cas de COVID, c'est tout croche, c'est le ministère de la Santé, mais ça revient aussi à l'éducation. Les écoles acidiques en Outremont qui sont restées ouvertes, puis que le ministère de l'Éducation a jamais bougé, il a envoyé une mise en demeure dont on se contre-fiche, parce qu'il l'a envoyé en 2020, puis ça n'a rien donné non plus. Les enfants qui gèlent, qui sont dans les écoles avec des classes, parce qu'il y a une tête de cochon, puis il a jamais voulu aborder, penser réellement aux échangeurs d'air, puis aux purificateurs d'air. Puis là, il se ramasse là, puis lui, il pense venir faire des entrevues de 5 minutes. « Hey, j'ai des nouvelles pour toi. »
Mario.
Ouais, le dossier de l'air n'a jamais été réglé. Continue à traîner, mais au ministère, incluant le ministre Roberge, là, et à la santé publique, ils ont toujours continué de dire, à l'étonnement général peut-être, mais ils ont toujours, sur la question de l'ouverture des fenêtres en plein hiver, là, même par des temps froids, ils ont toujours continué de dire que ça se faisait. Hein. Pas pendant que, dites-vous pas, la fenêtre à côté d'un enfant pendant qu'il est là, mais en dehors, le midi, à certaines heures, à certaines périodes, ils ont toujours continué à dire que ça se faisait. Moi, j'ai toujours été étonné, mettons, pour être poli, étonné de ça. Mais c'est l'école de pensée. J'ai hâte de voir aujourd'hui comment ils vont réagir au reportage du journal. Mais ils ont toujours maintenu, oh oui, il y a moyen, même par temps froid, d'ouvrir les fenêtres. Je sais pas lequel, même un en entrevue m'avait dit, c'est quelqu'un de la santé publique ou c'est le ministre Roberge, même c'était pas idéal là, du point de vue d'Hydro-Québec, là, du point de vue de la conservation de l'énergie, mais que c'était faisable là, dans une période comme une pandémie où il faut absolument remplacer l'air. Mais c'est pas, tu sais, quand on parlait de dossiers où la santé publique aurait dû, à un moment donné, expliquer ses décisions, si sont explicables. C'en est certainement un, là. Tu sais, avoir un briefing complet de la santé publique sur comment ils perçoivent l'importance de la qualité de l'air, la transmission par aérosol dans les classes, les risques, etc. Parce que on a toujours su qu'ils trouvaient pas ça si prioritaire, mais on n'a jamais entendu une démonstration détaillée ou une explication détaillée du pourquoi, puis de l'écart entre la santé publique québécoise puis la santé publique dans d'autres juridictions qui semblent beaucoup plus sensibles à cette question-là. Et le nouveau directeur de la santé publique à la conférence de presse sur la reprise des écoles, là-dessus, sur ce thème-là, il est resté général en disant, écoutez, la reprise va se faire dans des conditions sécuritaires. Conditions sécuritaires, on présumait que ça incluait la qualité de l'air, mais là, on voit aujourd'hui dans le journal ce que ça donne dans le vécu,
ouais.
Là.
Ben oui, puis là, on a mis de l'argent dans les lecteurs de CO2. Puis d'ailleurs, ce que tu dis, Mario, là, tu sais, de démontrer leur décision, d'expliquer leur décision, ben, on a eu la démonstration de l'inverse. Comment les purificateurs d'air fonctionnent, comment les échangeurs d'air fonctionnent. Et là, on applique des lecteurs de CO2. Là, la prof rentre, puis dit, ouais, le lecteur de CO2 est supérieur à 2500 ppm. C'est censé être 1500 ppm. Ben, on va ouvrir les fenêtres. Où on va prenez tous vos cahiers puis faites du vent. Tu sais, puis t'es
non, mais
impossible.
Certains cas, les lecteurs de CO2 sont là pour justifier la présence. Lorsqu'il y a des problèmes de lecture de CO2, ils en ont là, des échangeurs d'air. Je pense qu'il y en a une, il y en a
300 à peu près.
Il y en a une centaine d'autres. Donc c'est le lecteur de CO2 n'est pas classes, le fait en soi. C'est pour mesurer quelque chose. Sauf que là, on est rendu, on arrive au mois de février de la troisième année qu'on est en pandémie dans les écoles. C'est,
ouais. C'est pas toi, Philippe Vincent, qui disait, c'est comme mettre un thermomètre puis dire, ah, ben, il fait froid dehors.
C'est ça.
T'sais, mais une fois que c'est mis, tu sais, c'est correct.
C'est pas moi qui ai dit ça, mais je trouve que c'est une excellente image.
Ouais, en tout cas.
Mais bon, c'est comme c'est ça, il fait froid dans la classe. Oui, c'est ça. On n'a pas de chauffage. C'est ça.
Ouais. Mettez votre manteau, mettez votre tuque. Là, essayez de vous concentrer pour étudier, là. Parce qu'on est ici pour étudier.
Non, puis si le nez coule parce que t'as froid, là.
Ça,
c'est deux symptômes.
Tu consultes l'algorithme de gestion que personne n'a compris. Mais une chance que Daphné Dion vient l'a expliqué hier dans le journal.
Cette pâtissière de Jonquière là, qui en a assez, qui est à bout, qui dit, moi, ma salle, elle va être ouverte, ma salle à manger. Les gens vont pouvoir venir s'asseoir. Je fais tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de contamination. De toute façon, c'est des petites tables à deux, que vous soyez à la maison avec votre conjoint ou dans mon café avec votre conjoint. Ça change pas grand-chose. Sincèrement, je n'en peux plus. J'ouvre. C'est un peu le visage de ce roll-ball collectif qui existe en ce moment.
Ben, j'ai une question pour vous deux, moi, ce matin. À quoi ça a servi de se faire vacciner? Là, on a un passeport vaccinal. Quand tu rentres, là, si tu rentres dans un restaurant, tu dis, moi, j'ai eu mes 3 doses. ben ça a servi justement à retrouver une certaine normalité. Mais là,
on a vécu comme ça tout l'automne, là, grâce au vaccin. Mais là, je sais pas si t'as remarqué, mais Omicron, même chez des gens vaccinés, il a donné toute une volée à tout le monde.
Donc, mais chez les personnes âgées.
Il a servi à sauver des milliers de vies. Deux, il va servir à revenir plus tôt, parce que plutôt que d'espérer revenir d'un restaurant au mois de juin, je pense que cette année, on peut penser revenir au mois de février. Et je pense quand même qu'il est arrivé quelque chose. On était à 50-60 000 cas par jour, là, incluant des gens vaccinés qui l'attrapaient, qui étaient moins malades que s'ils avaient été non vaccinés. Mais il a fallu...
Malheureusement. On dit tout et son contraire. Là. On dit on va apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire...
C'est une phrase de marde.
Oh, marde, ce matin? Mais
c'est une phrase, là, je veux dire... Tout le monde dit ça, apprendre à vivre avec le virus. C'est vrai. Moi, on l'a fait tout l'automne. On a fait que ça cet automne. Mais quand est arrivé au micro, apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire quoi, mettons, le matin, que t'as 50 000 nouveaux cas, les hôpitaux sont pleins, on vit avec le virus. On fait quoi, là?
Omicron est moins sévère. Hier, je parlais à Mathieu Simon.
Omicron est moins sévère,
il y a
98 morts hier.
Il est moins sévère aussi parce qu'on est vacciné.
On est vacciné.
Ben oui,
mais ceux qui meurent, ce qu'on m'a dit, c'est les non-vaccinés puis les personnes qui étaient immunosupprimées.
Des personnes fragiles, mais...
Mais
le vaccin, il sert à ça. Là. Si c'est des non-vaccinés, des gens immunosupprimés qui ont eu les deux doses, mais pas leur troisième qui meurent... Je veux dire, à un moment donné, ça montre que le vaccin fonctionnait, a une immunité ou une efficacité qui diminue, puis les non-vaccinés qui ne l'ont pas eu sont frappés plus fort. Je veux dire,
mais si personne n'était vacciné avec le nombre de cas qu'il y a présentement, là, on ne penserait pas rouvrir les restaurants avant le mois de juin. Là, peut-être le mois prochain. Le point, c'est que cette dame, on revient à cette dame de Saguenay. Moi, ça ne m'a pas impressionné. Je comprends, elle a été excédée, comme tout le monde, mais... Je pense surtout que c'est une personne qui voulait passer à la TV dans la journée d'hier. Ça m'a pas impressionné. Son argumentaire était...
J'ai énormément de respect pour les commerçants, ce matin.
Mais son argumentaire était zéro. Quand elle dit c'est pas de ma faute, là, pas de ma faute la pandémie, puis pas de ma faute tout ce qui se passe, pas de ma faute les hôpitaux. Non, mais les gens qui sont délestés, là, qui sont en attente d'une coloscopie, qui sont délestés, c'est pas de leur faute aux autres non plus. C'est comme des phrases vides, là.
Mais attends, c'est parce que tu mélanges tout ça, là. Moi, je peux comprendre cette femme-là qui est ce qu'on dit, là, monoparentale, qui fait 2 000 $ par mois. Tu sais, nous autres, là, on a nos chèques, là. On est payés, on a notre salaire. Là, j'essaie de me mettre à sa place, là, puis t'essaies de survivre, de payer tes comptes. Puis là, on dit, tout est fermé, on a été vaccinés, on comprend le délestage, on comprend le personnel de la santé débordé, tu sais, mais je trouve pas qu'on est dans le discours d'Éric Duhaime, là. On n'est pas dans la défiance, on n'est pas dans tout ça, là. J'ai besoin de payer mes comptes.
La défiance puis la négation du besoin de couper les contacts. Je sais pas qu'est-ce que pourrait aller de plus.
Ben, c'est parce que là, il y a des gens qui ont besoin de payer des comptes. Il y a des gens qui vont faire faillite.
Il y a des programmes d'aide qui existent, il y en a pas mal.
Effectivement, ils ont pas l'air pour l'instant d'être assez simples et assez rapides pour aider. Ça, c'est un gros problème.
Ouais. Mais on peut pas négliger, on peut pas virer ça de bord, là. Moi, je veux pas qu'on soit dans la défiance, puis qu'on soit dans la désobéissance civile, puis qu'on ait le discours d'Éric Duhaime, puis évidemment, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même une réalité économique de gens qui gagnent plus d'argent, là, qui gagnent plus rien, puis qui attendent de l'aide.
Parce qu'elle a quand même une pâtisserie, donc ça veut dire que la plus grosse partie de ses revenus se fait, par des ventes, c'est une pâtisserie, là, c'est au comptoir, j'ai ça à côté de chez nous, là, une pâtisserie, puis effectivement, pareil comme elle, il y a 6-7 tables, tu peux prendre un café, prendre ta pâtisserie sur place, prendre un café, mais je veux dire, ça fait la file du matin au soir, là. Par rapport à des restaurateurs qui sont dans des styles de restauration.
Ou des bars, là, tu sais, un bar qui a pas réussi à rouvrir.
Hier, François Legault aurait dû donner un peu d'espoir aux gens, là. Tu sais, Doug Ford parle du 31 janvier. Tu sais, il aurait dû... Je comprends qu'il veut plus...
Mais les hôpitaux, c'est différent, hein? Le système ici, il est craqué bien raide, là. Puis Doug Ford, la troisième vague, il l'a fini trop vite. Puis ça a coûté cher à l'Ontario.
Ouais, ouais. Mais en même temps, là, c'est, on est rendu tous, d'un point de vue psychologique, ah, c'est sûr. Là, je pense que François Legault aurait dû dire, on vous entend, là, mais, puis on le sait, là, puis on le prévoit, mais on peut pas vous l'annoncer aujourd'hui. Mais donnez un peu d'espoir aux gens.
Je pense que c'est mot de mot, les mots qu'employait Benoît. C'est exactement ces mots-là qu'employait.
Non, il dit qu'il comprend.
Oui, ça. Pas pour l'instant. Mais
il donne pas d'espoir. Il donne pas d'espoir, tu sais. Il dit, oui, on vous entend, oui, on le sait que c'est dur.
Ouais, mais là, quand il donne de l'espoir, il dit, on voit la lumière au bout du tunnel, on rit de lui, que cette maudite lumière au bout du maudit tunnel, fait que, tu sais, il sait plus quoi dire, là.
Mais il y a peut-être des formulations à trouver.
Moi, j'en ai de l'espoir. Moi, je pense que les restaurants, là, j'ai bon espoir que ça se replace, ils vont être ouverts à Saint-Valentin. Maintenant, le portrait. Tu sais, hier, le portrait qu'on a, épidémiologique, là, ça a commencé à baisser les hôpitaux. Moi, hier, ça a baissé de 14, notamment à cause du grand nombre de décès, parce que dans les entrées et les sorties d'hôpitaux, les décès en font partie. Dans une personne qui sort de l'hôpital les pieds par en avant, c'est une sortie d'hôpital. Donc, il y a eu plus de sorties que d'entrées. Ouais, une journée qui a 98 décès. Ce qui veut dire que ce qui fait que ton bilan global dans les hôpitaux est au vert, t'as moins de monde à l'hôpital à la fin de la journée que t'en avais la veille. C'est notamment à cause des décès. Je pense pas qu'on puisse parler d'une situation complètement revenue sous contrôle.
On va voir les chiffres aujourd'hui. Là. C'est censé baisser encore un petit peu.
C'est censé baisser pour vrai aujourd'hui.
Espérons que ce soit la tendance. Messieurs, je vous souhaite une belle fin de semaine.
Okay. Salut.
Lundi. Salut.